Est-ce que tu es prête en 2024 à devenir épanouie, rayonnante et confiante? Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'es pas tout à fait à ta place. Au fond de toi, tu sais que si tu ne fais pas un pas fou et courageux dans le vide, alors tu resteras confortable, mais tu n'iras pas jusqu'au bout de cet appel intérieur qui te guide. Lorsque j'ai embarqué sur mon premier 200 heures yoga teacher training, je n'avais aucune idée de l'aventure dans laquelle j'embarquais. Et si elle m'a permis d'enseigner le yoga, ce qu'elle m'a surtout permis de faire, c'était de reconnecter pleinement avec qui je suis. Et c'est ce que je te souhaite. Les portes de mon 200 heures yoga teacher training sont ouvertes. Et cette formation, elle est à propos de toi. Tu seras accompagné par une équipe d'experts pour reconnecter avec tous les aspects de toi-même. Retrouver ta force, ta vulnérabilité, tes émotions, prendre confiance en toi et rayonner. Les deux stages immersifs de 10 jours chaque te permettent de transformer et de repartir avec toutes les clés pédagogiques et de transmission pour pouvoir à ton tour enseigner le yoga. Pas besoin d'être une perfect yogi avant de venir sur la formation. En fait, quand j'ai embarqué sur mon premier yoga teacher training, et c'était il y a 10 ans, je n'avais fait que 5 cours de yoga. Et regarde où j'en suis à présent. Alors n'hésite plus, c'est maintenant que ça se passe. La formation commence début mai, découvre le programme complet et inscris-toi en te rendant dès à présent sur mon site internet, anoukcoroller.com. Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audencia. Audencia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec 2 nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audencia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audencia, rendez-vous sur audencia.com. Épisode 114 avec Laurent Marchand. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Je me sens tellement reconnaissante d'avoir interviewé Laurent Marchand pour un épisode. Si tu ne le connais pas, eh bien Laurent Marchand, c'est une pointure en développement personnel. Je l'admire énormément de par son travail, puisqu'il a facilité la transformation personnelle de milliers de personnes vers une vie heureuse et épanouie, mais aussi pour son côté pragmatique et ancré dans la matière qui fait tellement de bien à notre communauté spirituelle. Prépare-toi à être challengé. Laurent Marchand a une approche no bullshit qui ne laisse passer aucune croyance limitante, aucun schéma victimisant ou drama de l'ego. Dans l'épisode, Laurent parle de son histoire, depuis son enfance à la vie qu'il mène aujourd'hui. Du processus de matérialisation et de ses étapes, pour que tu puisses toi-même les appliquer et faire l'expérience d'une vie spectaculaire. Il donne des exemples de matérialisation extraordinaire dont il a été témoin. C'est fort en émotion. Des blocages fréquemment rencontrés dans ce processus et de comment les dépasser. Je lui pose des questions au sujet du syndrome de l'imposteur, de comment ne plus être impacté par les énergies et les émotions des autres, et bien plus encore. I mean, guys, c'est une pépite d'interview. Pour retrouver le travail de Laurent Marchand, rendez-vous sur son site internet laurent-marchand.com et sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si cet épisode te plaît, alors n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces précieux conseils. Je te souhaite une très belle écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis super heureuse de te recevoir pour cette conversation. Tu es coach, auteur, conférencier international et fondateur du mouvement Tout est possible, qui a facilité et qui facilite la transformation personnelle de milliers de personnes. Tu vis toi-même une vie d'abondance, d'amour, de joie, d'amitié. Alors, évidemment, moi, je te connais un petit peu, mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux partager comment est-ce que tu as fait pour créer cette vie spectaculaire? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Qui était Laurent lorsqu'il était enfant?
Alors non, ça n'a pas été toujours comme ça. Merci beaucoup déjà Anouk pour ton accueil. Merci pour cette fenêtre de parole que tu ouvres à plein de gens et à moi. Et donc je me sens très honoré, donc merci beaucoup. Donc oui, non, ça n'a pas été toujours comme ça. Je suis né dans des endroits difficiles, on va dire. Aujourd'hui, j'ai plus envie véritablement de passer du temps à raconter tout ça parce que c'est une énergie qui me ramène toujours à des moments qui sont pas très joyeux. Mais en gros, je suis un enfant de la cité, je suis un enfant de la pauvreté, je suis le deuxième garçon d'une maman très jeune et en grande difficulté. Donc en fait, on va dire que mon enfance a été plutôt compliquée. Il se trouve que je suis hypersensible. Donc j'ai tout pris dans la tête, il se trouve que je suis TDA, donc j'ai été beaucoup chahuté, donc en fait non, c'était très très compliqué. Et je pense que d'ailleurs c'est, comment dire, la source de ce qui m'a donné envie d'aller ailleurs, d'aller voir voilà, ailleurs si j'y suis quoi. Et donc du coup j'ai tellement souffert du manque, j'ai tellement souffert de l'incompréhension que je me suis dit, il existe probablement soit un endroit, soit des gens avec lesquels je pourrais vraiment communiquer. Et en fait, je me suis vite rendu compte que non, que la seule personne qui devait changer dans mon environnement, c'était moi. Donc ça, j'avais déjà une trentaine d'années. Et en fait, tout ça est arrivé après 30 ans de complications, de maladies. J'ai eu un arrêt cardiaque, des accidents. Enfin, ça a été vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment catastrophique. J'ai eu une première relation, enfin des relations, j'en ai plein, mais j'ai eu une première relation un peu importante qui a duré. J'ai eu une petite fille et je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas le papa qu'il fallait pour cette gamine. Donc, je me suis dit, voilà, t'as pas 36 solutions. Soit tu changes, soit tu crèves parce que là, après l'arrêt cardiaque, je me suis dit, je sais pas ce que c'est que le prochain signal, mais il va être dur à avaler. Et donc, voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à bouger. Avec donc pour motivation de me dire voilà, je dois changer d'environnement, je dois changer même de niveau de vie, je dois changer de comportement intérieur, je dois changer d'attitude, je dois changer de relation avec les gens, je dois changer tout. Et donc ça a été un long travail, mais absolument passionnant. Je suis profondément passionné par la transformation parce que je savais même pas que ça existait et parce que je me rends compte que c'est un truc extraordinaire. Donc je l'ai mis à profit le mieux possible en bossant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un gros travailleur, je pense que c'est vraiment ce que j'ai hérité de cette vie difficile, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc je suis un gros bosseur, j'ai bossé sur le développement personnel, le mien, pendant très longtemps, ça fait plus de 20 ans, ça fait 23 ans, 24 ans maintenant. Et en fait, voilà, donc petit à petit, j'ai trouvé des outils que j'ai mis à ma sauce, que j'ai essayé, que j'ai tenté, et puis après, à un moment donné, j'ai eu le déclic avec le processus de matérialisation, et ces 10 dernières années sont... une sorte d'accélération de processus d'évolution pour moi dans ma vie, fois 1000. Voilà.
Merci. Tu viens de le mentionner, tu parles d'un processus de matérialisation. Mmh. Alors, j'ai envie qu'on rentre plus dans ce que c'est, ce que ça nous apporte, quelles sont les étapes. Mais avant tout, j'aimerais savoir pourquoi le mot matérialisation, en sachant que j'ai l'impression que ça se rapproche de ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, qui est le processus de manifestation. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
Alors, tu m'emmènes sur un sujet qui est un sujet pour lequel je refuse aujourd'hui de mettre des formes. Alors, je vais dire les choses très cash. Je crois qu'en fait, manifestation, c'est une fuite. C'est encore un moyen pour les gens du développement personnel. Je critique personne, mais c'est moi, je le ressens comme ça. C'est encore un moyen de fuir la matière. Manifester, ça reste encore quelque chose. Même le mot lui-même, il n'est pas dans la matière. Moi, je parle de matière et je sais en faisant ça, en parlant de matérialisation, donc vraiment de la mise en forme dans la matière, que ça fait chier beaucoup de monde. Parce qu'on peut plus fuir, en fait. À un moment donné, on parle de ça. Moi, j'aime bien tous ces trucs de conscience, de spiritualité. Je suis noyé dedans. Je suis un immense fan de tous ces trucs-là. Mais je suis en incarnation. Je suis là, Anouk. Je peux pas dire autre chose aujourd'hui. Si je veux chercher mon verre d'eau, bah il faut que je me lève, quoi. Tu vois ? Et voilà. Donc je suis dans la matière et je suis confronté à ça. Et cette matière qui est absolument fascinante parce que c'est la marque même de la limite et donc de la dualité. Donc tout ce que l'ego, le mental, le drama nous ramène tous les jours. Eh bien dans cet environnement de la limite, eh bien moi je vais agir en énergie pour que ce que je projette dans mes champs quantiques devienne matériellement là. Et aujourd'hui, eh ben, je me suis amusé, alors dans la matière, à avoir des biens. Je suis dans une maison qui coûte plusieurs millions, elle est immense, j'ai une voiture, j'ai deux motos, etc. Mais la matière, c'est aussi prendre les gens dans ses bras. Donc, créer des liens avec ses enfants, créer des liens avec ses parents. Pour moi, j'ai commencé par ça. Hein, quand la première application du processus de matérialisation, c'était créer des liens avec ma famille, avec qui jamais j'ai eu de liens qui étaient vraiment très forts. J'en ai eu quelques-uns avec mes cousines, avec mon oncle, mais pas trop. Et donc là, j'ai travaillé pour pouvoir prendre ma maman dans mes bras. C'est ça la matière. Pour pouvoir prendre ma tante dans mes bras. C'est ça la matière. Pour pouvoir aller avec ma moto jusque là-bas, avec l'amour dans le ventre, et non pas le sentiment que j'allais encore une fois être rejeté. Donc ça, c'est la première matière sur laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire la relation aux autres, qui n'est pas quelque chose d'énergétique et futile. C'est quand on prend la main de la personne qu'on aime, ça s'appelle la matière. Quand je prends mon fils dans mes bras pour lui faire un câlin, pour lui dire au revoir, ça s'appelle la matière. Donc voilà, j'ai commencé par ça, et puis après, je me suis amusé avec les biens matériels.
J'avais l'intuition que c'était quelque chose dans cette thématique-là, parce qu'en effet, manifester, ça peut faire un petit peu genre poudre de fée, un peu, voilà, fairy dust. Et c'est vrai que même dans ton livre et dans la façon dont tu communiques au monde, il y a quelque chose de très ancré, de très bring it back. Et parfois dans la communauté spirituelle où on utilise la loi de l'attraction, voilà, ça peut rester quelque chose de très déconnecté en fait. Donc j'apprécie particulièrement ce pris parti de revenir à la matière à travers ton vocabulaire en tout cas.
Je te remercie Anouk parce que juste tu cites la loi d'attraction qui, alors moi j'ai lu Barbermore et tous les GRX et compagnie, j'ai vu des conférences de STRX, enfin je me suis passionné pour ça et en fait j'ai toujours pensé qu'il manquait quelque chose. Et en fait, ce qui me manque, et je le dis haut et fort, et je sais qu'il y a plein de gens qui enseignent, et j'ai plein d'amis d'ailleurs qui enseignent la loi d'attraction, qui me détestent, mais c'est que 60% du job, quoi. Le reste du job, c'est la terre, le reste du job, c'est le physique, c'est le corps. Et en fait, c'est malheureusement, comme on oublie ça, en fait, tout reste une sorte de projection, alors absolument géniale, hein, parce que c'est quand même 60% du job, mais en fait, cette projection, elle reste fantasmatique pour plein de gens. Et en fait, malheureusement, si c'était pas le cas, j'en aurais rien à cirer, mais malheureusement, cette création fantasmatique sans résultat dans la matière, ça crée énormément de dépression, ça crée énormément de conscience dépréciée, c'est-à-dire des gens qui se disent, en fait, tout le monde y arrive, mais moi, je suis nul. Et en fait, ça, c'est compliqué pour moi de me dire que je travaille dans le développement personnel et qu'en fait, mes outils puissent exclure quelqu'un. C'est impossible.
Merci pour ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et moi-même, on trépigne d'impatience de savoir, OK, maintenant, comment est-ce que vraiment on va matérialiser? Est-ce que tu peux nous guider dans les étapes de la matérialisation? Et ouais, comment on fait en fait?
Bah, déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'on le fait déjà. OK, là, tu es assise sur ton canapé dans ta maison. Ça veut dire que tu as au moins manifesté un canapé et une maison. Tu as un micro à la main, donc tu as au moins manifesté un micro. Donc cette matérialisation-là, cette mise dans la matière de ce canapé, cette maison et ce micro, ce foulard, ce t-shirt, ces boucles d'oreilles, tout ça, c'est de la matérialisation. D'accord ? Cette matérialisation, il est absolument important qu'on sache qu'on l'a fait déjà. Il n'y a pas d'apprentissage. Et moi, je pense que le vrai développement personnel ne peut pas inclure l'idée qu'on apprenne quelque chose. Parce que ça veut dire que c'est pas naturel. Donc la matérialisation est quelque chose de très naturel. C'est pas le problème. Tout le monde matérialise. Mais tout le monde ne matérialise pas ce qu'il souhaite. Donc il faut comprendre quel principe génère la matérialisation. C'est-à-dire quel principe génère le plus souvent la matérialisation. C'est-à-dire, je matérialise quoi? Donc, j'invite tout le monde à regarder autour de lui la nature de l'environnement dans lequel il est, la maison, l'appartement, la pièce, les gens, l'argent sur le compte en banque, la qualité des moyens de transport. Voilà, tout. Dans la matière, je regarde autour de moi pour me rendre compte, alors c'est le premier principe, c'est le principe de responsabilité, pour me rendre compte que la plupart du temps, l'énergie qui génère cette matière est quelque chose qui ne va pas dans le sens de mon bonheur. Bon, il y a plein de gens qui matérialisent déjà de façon tout à fait spontanée dans le sens de leur bonheur, mais ceux-là, ils écoutent rarement les podcasts parce qu'ils en ont juste pas besoin en fait. Donc ils écoutent des podcasts sur autre chose, sur comment faire des trusts à 100 millions de dollars, voilà. Mais bon, ils sont pas dans cette position à se poser la question de savoir comment on peut transformer. Donc déjà, c'est la première chose à savoir. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui, en moi, me pousse justement à matérialiser ça plutôt que de matérialiser quelque chose qui va me rendre heureux, puisque de toute façon tout à fait raisonnée, bah, je suis la première personne à pouvoir dire « Moi, ce que je veux, c'est une maison comme ci, comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est un environnement où ma maison, elle serait située à tel endroit. » On est capable, raisonnablement, de dire « Voilà comment on aimerait vivre. » On est capable raisonnablement de dire ben voilà, moi j'aimerais des relations avec les autres qui sont des relations saines, agréables, heureuses. Je voudrais avec mon conjoint ou ma conjointe de l'amour, de la complicité, de la douceur, de la tendresse, puis du rire, puis de l'aventure. Voilà, on sait raisonnablement dire tout ça. Mais il y a quelque chose qui se fait pas, puisque dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qui agit? Quand on étudie aujourd'hui enfin, tout ce qui est découvert à partir des neurosciences, à partir de l'étude du cerveau inconscient, à partir des systèmes intérieurs, on se rend compte, et depuis assez peu de temps, d'ailleurs merci la théorie polyvagale parce que c'est quand même cette recherche-là qui nous l'a apporté, qu'il y a un lien entre le cerveau inconscient et ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est le système nerveux qu'on a dans notre corps mais qui agit de façon autonome. Okay. Et ce système nerveux, il va nous protéger. C'est celui qui fait que, bah, dès que, je sais pas, par exemple, on se met à traverser une rue qu'on entend un klaxon, bah, on fait un pas en arrière. Ça veut dire qu'on est construit avec un système qui va prendre le contrôle sans notre avis, okay, pour nous mettre en sécurité. Seulement, ce système-là, il est connecté avec notre cerveau inconscient et notamment avec notre architecture traumatique. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans notre enfance ou dans notre vie qui nous a traumatisés. Alors, il y a les grands traumatismes, qui sont des traumatismes violents, des agressions, des accidents, etc. On est conscient de ces traumatismes-là. Déjà, ceux-là, ils sont là. Et puis après, il y a tous les traumatismes qui sont des petits traumatismes, qu'on appelle les traumatismes de la vie quotidienne, c'est-à-dire une phrase de papa, une de maman, des concepts qu'on a entendus, des choses qu'on a vues, ou en tout cas qu'on a interprétées comme étant dangereuses, etc. Et tout ça, c'est un amalgame d'informations qui sont engrammées dans notre cerveau inconscient. Et ça, c'est ce qui va donner des ordres à notre système nerveux autonome. Donc, autant dire qu'on est dans la merde. Et surtout, je pense qu'effectivement, on est dans la merde parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là. Alors évidemment, on peut aller voir des hypnothérapeutes, on peut aller voir plein de gens qui vont nous mettre en contact avec ce cerveau inconscient et surtout cette architecture traumatique. Et on va savoir Mais c'est pas pour autant que notre système nerveux autonome va arrêter de prendre le contrôle dans certains moments. Donc, par exemple, on peut très bien expliquer qu'on est timide parce que on a toujours été protégé. Donc, on a l'information, mais ça nous n'empêche pas d'être timide. La timidité, c'est quoi? Bah, c'est le système nerveux autonome en action. Donc, ce système nerveux autonome, il a trois étapes. Donc, quand il se sent pas trop en danger, il va essayer de créer du lien. Donc, c'est une espèce de sentiment qu'on n'est pas tout à fait à l'aise, mais que ça va, comment, oui, machin, tout ça. Donc, on crée du lien. C'est le premier système de défense. On se dit, si la personne me connaît, si je connais la personne, elle me fera pas de mal. Mais déjà ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de maîtrise, parce que justement, ce système nerveux, il est venu nous contrôler. Et c'est le genre de situation où après, on se dit, putain, mais pourquoi j'étais comme ça? Putain, c'était ridicule. J'étais là à faire des salamalecs, n'importe quoi. Je suis pas comme ça. Donc, ça veut dire que on était sous emprise du système nerveux autonome et qu'il était en train de nous balader avec son premier système de défense. Deuxième système de défense, un peu plus sentiment d'insécurité, c'est soit je fuis, soit j'attaque. Donc ça, on le voit énormément dans les relations, notamment les relations amicales, familiales, amoureuses, beaucoup. C'est tu reprends de la purée? Comment ça, je reprends de la purée? Évidemment, je reprends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que j'ai grossi, c'est ça? Voilà, ça, c'est l'attaque. Et à côté de ça, il y a d'autres fois où en fait, bon, on sent que l'autre, il est pas bien dans ses baskets, qu'il est agacé par quelque chose. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on se barre. Mais là encore, ce sont des choses où on se dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Ça va, il me demandait juste si je prenais de la purée. Enfin, il n'y a pas besoin d'en faire un drama comme j'ai fait. Putain, on aurait dit une diva sur scène. Oui, oh là là. Mais voilà, c'est ça. Et puis d'autres fois où on fuit et on se dit, mais pourquoi je me suis barré? Enfin, ça va, je peux quand même assumer une conversation. Donc voilà, tous ces trucs. Et puis après, le troisième stade, c'est le stade qui est le plus terrible, c'est le stade de la sidération, où on se fige et on ne sait plus quoi faire. Et le stade donc aussi de la soumission, donc c'est le même stade, sidération et soumission, où là, d'un seul coup, on accepte tout. Et on peut se dire, ouais, mais enfin, le stade de la sidération, il faut vraiment un gros choc. En fait, pas du tout. C'est que tu es juste à côté, tu es à la machine à café, et d'un seul coup, il y a le mec ou la nana de la compta que tu trouves super mignon ou super mignonne qui arrive, et là, tu bloques, c'est-à-dire que tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire, tu enfiles ta pièce dans le truc, tu tapes sur un truc au hasard, et en fait, et cette personne te dit, ah, dis donc, vous prenez un potage à 8h le matin, oui, et puis tu sais pas quoi répondre, parce que tu sais que t'as merdé, t'as pas appuyé sur le bon bouton, on te sert un potage, et puis comme t'es comme un couillon avec ton potage, tu te dis, bah, je vais quand même pas faire comme si j'aimais pas ça, donc tu bois le potage à 8h du matin, et là, t'es en train de te dire en même temps, en métaposition, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Ça, c'est la sidération. Et c'est aussi un acte de soumission parce que tu te dis, de façon tout à fait consciente, tu te dis, je ne vais pas boire mon potage parce que sinon, je vais passer pour un idiot. Donc, tu commences à boire un truc que tu n'as pas envie de boire pour pas passer pour un idiot auprès de la personne. C'est ça, sidération, soumission dans la vie courante. Donc, tout ça, c'est tous les jours. Pour moi, Anouk, il est absolument impossible d'imaginer que je vais continuer ma vie en laissant cette architecture traumatique prendre le contrôle sur moi dans des situations du quotidien comme ça. C'est impossible. Donc, je me suis vu très très souvent dans ma salle de bain en train de me reprocher, à m'être dit pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Je me suis vu très très souvent dans des groupes d'amis à pas répondre parce que être impressionné par quelqu'un qui était là et qui avait des jolis yeux. Je me suis vu trop souvent faire ça et je me suis dit c'est pas possible en fait. Je veux pouvoir choisir. Et donc, j'ai travaillé, j'ai étudié énormément, énormément. Je suis un dingue, honnêtement, ma bibliothèque de développement personnel, elle est énorme. J'ai fait des dizaines, des centaines de stages, de machins, de trucs. J'ai rencontré des gens, j'ai essayé de la PNL, j'ai essayé des trucs, de l'EMDR, j'ai tout essayé. Et en fait, petit à petit, j'ai compris un truc grâce notamment au travail sur la conscience. Et justement, tout ce qui se passait en moi pour ouvrir ma conscience déjà à tous ces outils-là. Je me suis rendu compte que il y avait une sorte d'énergie à l'intérieur de moi. Et cette énergie, elle était sur un rayonnement qui était particulier. Et je me suis dit, comment je vais faire rayonner? Alors, on parle de fréquences basses, fréquences hautes. Moi, je pense pas qu'il y ait des choses basses et hautes dans l'énergie. Mais comment je peux juste rayonner sur une fréquence qui soit une fréquence de puissance, en fait? Qui n'est pas une fréquence de puissance dictée par mon ego qui va être puissant, qui est juste la fréquence de tout être humain, de toi, de moi, de n'importe qui. Cette fréquence qui est ce rayonnement heureux, quoi. Comment je peux faire? Eh bien, il faut que je parle à mon cerveau inconscient, c'est-à-dire à toute cette architecture traumatique. Il faut que je calme. Donc, Barbelmore, Jerry X, tout ça, on y vient. on proposait Napoléon Hill, on proposait de faire des projections. Moi, j'ai commencé à faire des projections et donc d'imaginer des choses avec mon intellect qui soient résolues. Okay? Donc, je ne me vois pas en train de gagner de l'argent parce que ce n'est pas une situation résolue. Je ne me vois pas en train d'acheter une maison, c'est pas une situation. Par contre, je me vois en train de vivre avec, comme si tout était déjà derrière moi. Et je suis dans le bonheur de parcourir ma maison, mais pas parce que je la visite, parce que je vis dedans. Donc, je peux me visualiser en train de parcourir ma maison. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma maison. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma voiture. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Donc, c'est psychologique, certes, mais ça renvoie sur l'émotion. Ensuite, cette émotion, bien sûr, donc là, on va me dire, c'est la loi d'attraction, hein, projection, émotion. Cette émotion, je la mets dans ma matière. Ma matière, c'est mon corps. Et c'est là où je commence à être, moi, le premier outil de matérialisation. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de compréhension que je suis là, d'acceptation que je suis en incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce travail-là, même dans mes groupes, et qui me disent j'ai du mal à mettre l'émotion dans mon corps. Et on travaille sur l'incarnation, donc la densité. Comment on travaille sur la densité? Eh bien simplement, les gens appellent ça faire du sport. Moi, j'appelle ça reconnecter. Toi, tu en sais quelque chose. J'appelle ça reconnecter avec la matière de soi. Je suis en incarnation, donc je suis une âme dont la puissance et la fréquence sont extraordinaires, incarnée dans un corps limité. Et donc ce corps limité, je vais lui l'aider à retrouver cette fréquence et cette énergie qu'a l'âme au départ. C'est-à-dire que du coup, je serai certes limité dans la matière, mais illimité dans l'énergie. Et donc du coup, je travaille ça. Donc ça veut dire, moi je fais une heure de marche sur un tapis incliné à 15% à 5 km/h tous les deux jours, minimum. Sinon, ça peut être aussi tous les jours. Je travaille à comprendre mon corps. Donc j'ai été coaché pendant longtemps avec quelqu'un qui est un technicien du corps humain pour m'expliquer comment ça marche. Et je m'entretiens. Je m'entretiens en permanence et je cours. Et puis après, je m'entretiens autrement. Hein. Je m'entretiens aussi. Hein. Je danse, je m'amuse, je saute en l'air, je nage dans ma piscine, je vais à la mer, je roule sur ma moto. J'entretiens ce corps, c'est-à-dire que je lui donne aussi cette densité qui est celle de l'incarnation. Pour pas me voiler la face. On aime bien les trucs de l'énergie parce que souvent ça nous permet de nous détacher de la matière et de nous détacher de ce monde de brut là. Mais en fait, ce n'est pas un monde de brut. C'est un monde d'opportunités extraordinaires. Seulement, il faut que je sois là pour pouvoir les saisir. Et moi, juste pour info, hein, parce que aujourd'hui tout le monde me voit, c'est le mec en noir avec ses tatouages et ses gros bras. Moi, j'ai marché sur la pointe des pieds pendant 17 ans, Anouk. J'ai marché sur la pointe des pieds pendant 17 ans. C'est-à-dire que pendant 17 ans, j'ai pas accepté d'être posé sur le sol. Alors, j'ai mis ça sur le compte d'une blessure parce que je me suis cassé les talons au judo quand j'avais une dizaine d'années. Et donc, du coup, je disais toujours, marcher sur les talons, ça me fait mal. Mais en fait, c'est pas que marcher sur les talons, ça me fait mal. C'est que quand tu marches jamais sur les talons, quand tu te poses sur les talons, évidemment, t'as mal. Tu vois? Donc voilà, mais 17 ans, ça veut dire aussi dans quel état intérieur j'étais de fuite de la matière. Parce que quand je regardais autour de moi quand j'avais 15 ans, j'avais juste envie de pas être là. Moi, j'ai fait 10 tentatives de suicide. Alors, c'est pas des grosses tentatives, j'ai eu des tentatives. Il y en a eu 3 ou 4 qui ont été vraiment des tentatives. Mais 10 fois, j'ai eu envie de me barrer. Ça veut dire que cette matière-là, cette incarnation, j'arrivais pas du tout à m'y faire. Donc, il a fallu que je fasse un vrai travail, justement, pour revenir physiquement au présent et pour comprendre que cette terre que j'essayais de fuir, c'est un endroit où il y a tout. Il y a tout ici. Il y a des forêts, des montagnes, des lacs, des rivières, de la mer, il y a tout. Il y a des gens agréables, des gens désagréables. Il y a des gens qui parlent hindi, il y a des gens qui parlent espagnol, italien, français. Il y a des gens partout. On peut vivre des milliards d'expériences. Donc, pourquoi je veux vivre un truc où finalement, j'ai une chance de vivre des milliards d'expériences. Donc, je me dis, écoute, je suis là, je reviens là, dans mon corps, et je mets psychologiquement cette résolution dans ma tête, émotionnellement le bonheur de vivre ça, et dans mon corps. Et là, tu entends que je tape. Ah, les gens, ils disent, j'aime pas quand tu fais cet exercice parce que tu te tapes dessus. Non, je me tape pas dessus. Je prends conscience que je suis matière. Et si je veux prendre conscience que la table est matière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Eh bien, moi, je vais prendre conscience en faisant comme ça. Après, on n'est pas obligé de se faire mal. Je me fais pas mal quand je fais ça. Mais je sens que j'existe, quoi. Je sens que j'existe. Et ça, c'est quelque chose qui est le grand élément oublié dans les concepts de manifestation ou de matérialisation. Donc, champ quantique, émotion, matière du corps. Et ça, je le répète en permanence. Je le répète 6 fois, 10 fois par jour. Il y a des jours où je l'ai fait 60 fois, 70 fois. Donc, j'étais en vacances. Hein. Mais je me pose là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est la répétition qui va être le moyen de parler à mon architecture traumatique. Le faire une fois, mon architecture traumatique, elle en a rien à cirer. Elle reste toujours dans le même niveau de sécurisation. Mais si je lui dis tous les jours, regarde, pensez ça, vivre ça, ressentir ça, éprouver, hein, je parle pas de ressentir, mais d'éprouver physiquement, égal, je me sens bien, égal, je vais bien. Il y a plein d'outils qui utilisent ce principe de parler à l'inconscient en lui disant, tu vois, ça va. Il y a NERTI, TIPI. Alors, je trouve ces outils un peu violents, enfin même carrément violents, pour l'avoir fait. Hein. Moi, je me suis soigné avec NERTI sur un trauma. J'ai trouvé ça absolument génial, mais par contre, j'ai passé un sale quart d'heure. Le processus de matérialisation, c'est juste une répétition du bonheur incarné. Je projette, j'émotionne et j'incarne. Je répète ça, je répète ça. Petit à petit, le cerveau traumatique tire une conclusion. Et cette conclusion, c'est bah finalement, avoir de l'argent, c'est pas si terrible que ça. Et petit à petit, et plus on lui dit, alors on fait pas ça pour avoir de l'argent, on fait ça pour casser l'architecture traumatique. Tous les gens qui le font avec l'enjeu de vouloir un résultat, ils sont toujours dans l'ego, et en fait, ils connectent avec leur ego, mais pas avec leur cerveau inconscient. Moi, je dis, je change en fait, je donne un autre mouvement à ma vie, et dans ce mouvement-là, bah, c'est avoir une grande maison, c'est génial. Et vivre la vie de l'abondance, c'est génial, et c'est génial, et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et petit à petit, mon architecture traumatique, eh ben, elle s'arrête, et elle arrête d'envoyer mon système nerveux autonome en mission dès lors que je commence à m'approcher d'une situation qui est inconnue pour lui et qui lui fait peur. Donc petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que plutôt que d'être dans la fuite, dans l'attaque ou dans la sidération, ben en fait, je vais être moi-même. Donc je vais voir autour de moi des opportunités que je voyais pas, qui peut-être étaient à là, 5 cm de moi. Mais je les voyais pas parce que j'étais retenu, parce que j'étais empêché, parce que j'étais sous contrôle de mon système nerveux autonome. Donc là, du coup, je me dis, voilà, je vais continuer de faire ça sur le thème de l'amour. Donc ça veut pas dire projeter une personne merveilleuse dans ma vie, mais me projeter moi en tant que personne merveilleuse dans ma vie. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire, l'idée, c'est pas de savoir si je serai aimé. L'idée, c'est de savoir si je suis aimable. L'idée, c'est pas de savoir si je vais gagner de l'argent. L'idée, c'est de savoir si je suis déjà riche intérieurement. C'est pour ça, c'est vraiment un travail intérieur. C'est pas un travail qui se fait avec l'extérieur. Il y a aucune solution et aucun secours dehors, ni avec les gens, ni avec les situations, les événements, les choses, enfin, rien. Et donc voilà, petit à petit, cette répétition va casser cette architecture qui va démissionner mon système nerveux autonome, bah, qui va pas s'activer quand je serai dans une situation en train de mettre ma pièce de 1 euro pour prendre mon café dans la machine à café. Et quand je vais voir débarquer le mec ou la nana de la compta, eh bien, je vais pas me mettre à flipper. Et d'un seul coup, je vais me dire, ah bah merde, c'est bizarre, d'habitude, je suis pas bien. En fait, c'est même pas à ce moment-là qu'on va se dire. C'est là, on va avoir une conversation avec cette personne en disant, qui va vous dire, ah bah, c'est plus la soupe le matin? Non, j'ai décidé de me mettre au café, c'est un peu original et tout. Et en fait, après, on va partir en disant, putain, mais j'ai répondu, en fait. C'était sympa, on a rigolé. J'aurais jamais été capable de faire ça il y a un mois, quoi. On s'étonne toujours, après coup, du travail qui a été celui de la transformation intérieure. Et ça, on peut le faire sur tous les sujets. Et honnêtement, moi, j'ai travaillé avec ma famille aujourd'hui. On s'entend hyper bien après 45 ans de guerre, hein. Mais il y a un profond amour, c'est comme s'il y avait une sorte d'amnésie générale de tout ce qui s'était passé avant. Je l'ai travaillé avec mes enfants, aujourd'hui j'ai une société, je suis associé avec ma fille. On s'entend très très bien ce matin, on s'envoyait des messages pour dire « j'adore bosser avec toi, c'est juste génial ». J'ai fait ça avec mes équipes, avec mon niveau de vie, avec l'amour. Je vis une relation qui est juste incroyable, mais à laquelle moi-même je ne pouvais pas m'attendre. Voilà, c'est juste comme ça. Et en fait, je ne fais rien d'autre que me mettre dans un autre mouvement.
Waouh, merci. Il y a tellement de questions que j'ai envie de te poser par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu as vu de choses extraordinaires se matérialiser ? Là, tu nous en as parlé un petit peu, tes relations. Est-ce qu'on peut tout matérialiser ?
En fait, c'est compliqué parce que c'est ma vie. Alors moi, il y a des choses que je trouve pas forcément extraordinaires, mais les gens trouvent ça extraordinaire. Donc cette maison là, qui est aussi dont j'ai fait un coworking, qui est une immense maison à Montpellier, dont j'ai fait un coworking, est une extraordinaire matérialisation. Mais moi, elle était dans mon quotidien. Donc, pour moi, c'était compliqué. C'est compliqué de dire c'est absolument génial. Mais plein de gens trouvent ça génial. En revanche, moi, je vois les gens qui matérialisent dans mes groupes de travail. Parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. Hein. Je me suis dit, on va partager ça dans un bouquin. Donc, comme ça, les gens, ils achètent le livre. Ils ont tout. Il y a tout. Dans mon livre, il y a tout. Et après, je crée un terrain d'entraînement. Donc, les gens qui ont lu le bouquin ou qui veulent simplement s'entraîner, ils viennent, on leur file un programme qui est le livre, on leur file le livre, on leur dit d'abord tu lis ça et après tu viens t'entraîner avec nous. Et une fois qu'ils sont sur le terrain d'entraînement, on bosse. Et c'est là que je vois des trucs incroyables. J'ai une cliente cette année, elle est venue dans un atelier début du mois d'octobre, fin septembre, et elle est revenue là dans un atelier le week-end dernier. Cette personne n'est pas sortie de chez elle pendant 7 ans. Imagine ce que c'est 7 ans. Tout le monde dira, ouais, 7 ans, c'est un chiffre. Non, non. 7 ans, c'est des heures, c'est des minutes, c'est des jours, c'est des semaines. Impossible. C'est-à-dire que quand elle arrivait devant la porte, c'était impossible pour elle de l'ouvrir. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. C'était impossible. Elle a réussi de temps en temps à faire les courses avec sa fille parce qu'elle était complètement accrochée à elle. Cette personne, en fait, elle a travaillé le processus et aujourd'hui, elle prend le train, alors que ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Elle prend le train, elle vient aux ateliers, il y a du monde, elle se sent bien. Tous les matins, elle arrive, elle est souriante, elle est radieuse. C'est juste incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai une autre cliente qui s'appelle Cathy. Cathy, je l'ai connue il y a 2 ans, elle est venue faire scan. Donc, je vois la nana Cathy, c'était moi, c'est une Cathy. Et en fait, Cathy, elle est reconnaissable parce qu'elle a une prothèse sur la jambe. Sur la jambe, c'est pas une prothèse à la place de la jambe. Elle a une prothèse sur la jambe, donc une sorte de, je sais pas, d'un truc qui lui tient la cuisse, le genou et le mollet. Et en fait, elle ne peut pas marcher avec ça, il y a une canne. Donc, je fais tout scan avec elle. Et puis, je sais qu'elle est dans le programme, puis je vois ses postes, je sais que c'est Cathy, quoi. Et je l'ai vue, là, il y a quelques semaines, dans un atelier. Enfin, je l'ai vue. Il m'a fallu une demi-journée pour la reconnaître. Parce qu'elle n'a plus sa prothèse. Elle marche plus avec sa canne. Elle a perdu, pas peut-être 10 ou 15 kilos. Elle n'est plus physiquement la même. Et à un moment donné, donc, on fait toute la matinée, il y a une pause, et je la vois s'installer. Et quand j'ai reconnu Cathy, les larmes sont montées. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas toi, quoi. Et en fait, elle était là, toute timide, en me disant, si, si. J'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, j'applique le processus tous les jours. Et en appliquant le processus, elle a changé son mouvement intérieur. Elle a fait un truc qui est juste extraordinaire, c'est qu'elle s'est dit, j'arrête de m'occuper uniquement de ma jambe, je vais m'occuper de tout mon corps, ma jambe y compris. Et en fait, elle a totalement transformé sa santé. Alors évidemment, elle est toujours suivie par le système médical et c'est très important de pas lâcher ses traitements et ses suivis-là. Mais elle ajoute quelque chose qui est une nouvelle énergie, un nouveau mouvement. Et là, elle se levait, elle filait le micro, parce qu'on se file le micro les uns aux autres, en marchant tranquille. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est impossible de la reconnaître. Et il se trouve que donc ça, c'était il y a quelques semaines. Et dernièrement, on a fait un autre atelier où d'autres gens ont fait la formation avec elle et ont mis une journée avant de la reconnaître. Il y a même une personne qui dit, qui prend le micro pour poser une question, qui dit, j'ai pas une question à poser, mais... Enfin, la question, c'est Cathy? Enfin, c'était incroyable. Les transformations sont hallucinantes. Après, on a le témoignage d'une femme qui parlait plus à son fils depuis 17 ans. Elle savait même pas où elle était. Elle savait juste qu'il était quelque part à l'étranger, mais elle savait pas où. Et elle a travaillé à la trame, c'est un dérivé du processus, pendant 3 semaines et il l'a appelé. C'est-à-dire qu'elle a même pas eu besoin de le faire, quoi. Elle a travaillé sa relation avec lui. Et en fait, énergétiquement, nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Et en fait, elle a nettoyé toutes les toxiques de la relation qui existaient. Et en fait, forcément, à un moment donné, lui aussi pense à elle. Ces toxiques ne sont plus. Donc, il ressent intérieurement quelque chose qui est beaucoup plus favorable à la relation. Et il appelle. Et ça, on l'a vu des centaines de fois, Anouk. Des centaines de fois, il y a eu plein de trucs comme ça. Des gens qui ont essayé de monter des boîtes pendant 4 ans, qui réussissaient pas, qui ont commencé à appliquer le processus, qui ont monté ça en 6 mois, qui aujourd'hui sont des énormes succès. Des gens qui ont changé de niveau de vie de façon juste incroyable. Il y a même des gens qui disent, qui sont venus me voir. C'est en juin, on a organisé un festival. Il y a un mec qui est venu me voir, qui me dit, écoute, tu sais, il faut quand même que je te dise quelque chose. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4, ce qui représente énormément. Mais je peux pas le dire parce que je me dis, putain, les gens, ils vont jalouser. Voilà, je suis pas bien. Dernier atelier, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, écoute, donc lui, il a fait vraiment un gros, gros, gros travail avec nous, puisqu'en fait, il est rentré dans une expérience qui s'appelle Titan, où en fait, c'est ça, mais x 1000. C'est le travail de TEP, mais x 1000. Et lui dit ma société qui faisait 10 millions, elle fait 30 millions. Et là, les perspectives à 2 ans, c'est 100 millions. Donc il me dit ça un peu en catimini en disant je ne comprends même pas comment économiquement c'est possible. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en route qui est juste absolument génial. C'est comme une sorte de cercle vertueux. Et moi, je suis là-dedans au milieu et je suis dans la foi et dans la confiance. Et ça, c'est toi qui me l'as appris. Mais en fait, on en a vu des trucs incroyables. Franchement, moi, je trouve que les trucs les plus hallucinants, c'est quand même ce qui a été créé dans la relation. Une fois, j'étais en train de faire des dédicaces et il y a une femme qui arrive avec son livre qui me dit « Voilà, il faut que je veux absolument un mot sur ce livre parce que c'est grâce à ce livre que j'ai pu vivre une des plus grandes expériences de ma vie. » Et je lui dis « C'est quoi ?» Elle dit « Bah en fait, c'est le retour de ma fille. » Ma fille, en fait, on était fâchés depuis des années, mais elle était dans la haine. Et je savais qu'elle avait la haine pour moi et je savais pas pourquoi. Et en fait, j'ai lu ce livre, j'ai appliqué. Et aujourd'hui, on est de nouveau ensemble. On s'est retrouvés. Ça se passe hyper bien. Et je lui dis, ah, mais c'est génial. Et t'aurais dû venir avec ta fille. Elle me dit, mais elle est là. Et elle était juste à côté. Et on s'est pris dans les bras tous les trois. On pleurait comme des madeleines parce que c'était trop beau. Et en fait, on était là. Moi, je leur dis merci d'avoir fait ce job. Elles me disent merci pour l'info. Elles pensent que j'y suis pour quelque chose, mais c'est juste une information que je donne. Et la gamine, elle était trop heureuse d'être dans ce truc-là, d'être un bienfait collatéral, quoi. Non, mais c'est voilà. Je pourrais t'en citer encore mille comme ça.
Waouh, c'est magnifique. Et what a blessed life tu vis. Enfin, ça doit être juste magnifique d'être témoin de tout ça et ça doit te donner encore plus d'énergie pour continuer et pour conquérir plein d'autres cœurs et pouvoir dénouer à la fois des relations, mais aussi débloquer des gens pour qu'ils aient plus d'accès à leur santé ou créer des choses magnifiques dans le monde. Merci pour tous ces partages, ça m'a moi-même émue. T'en as parlé un tout petit peu, mais parfois il y a des toxiques. T'en as parlé aussi à travers donc l'architecture traumatique. Quels sont aussi les plus gros blocages que tu vois et comment est-ce qu'on peut dépasser ces blocages? Tu as également parlé du fait voilà, d'avoir cette projection, de vraiment l'incarner, de l'incarner à un point où c'est bien même de toucher son corps, de se taper un petit peu dessus. C'est pas joliment dit, mais voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils s'il y a des blocages ou des toxiques? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça, c'est toxique?
Alors, déjà, il faut pas s'attendre à ce que ce soit une baguette magique. OK? Par la répétition, on va provoquer notre architecture traumatique. On va la provoquer puisqu'en fait, elle est là pour nous protéger et nous, on lui donne à manger quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc il y a une provocation qui est là. Cette provocation, elle va générer des injonctions de notre mental, de notre ego et de notre drama. Les injonctions du mental, par exemple, si on veut développer une entreprise à un niveau qu'on n'a jamais expérimenté jusque-là, le mental va dire ça s'est jamais fait, tu sais pas faire, tu es incapable de gérer l'argent, tu sais pas manager les gens. Pourquoi? Parce que le mental regarde dans la bibliothèque du connu, c'est les seules informations auxquelles il a accès. Il regarde et il dit en termes de chef d'entreprise, t'as jamais fait ça, point barre, ça s'est jamais fait, tu l'as jamais fait, donc tu le feras jamais. Donc ça, c'est les injonctions du mental. T'as jamais fait ça, t'y arriveras pas. Les injonctions de l'ego, c'est des injonctions d'identification. L'ego, lui, il a besoin d'être plus que quelqu'un et moins que quelqu'un. Donc là, les injonctions, ça va être « t'es moins que quelqu'un ». Tu n'y arriveras jamais, de toute façon, t'es nul, t'es à chier, tu te prends pour qui ? Voilà, ça, c'est les injonctions de l'ego sur l'identification. Et les injonctions du drama, donc le drama, c'est la surémotionnalité, c'est la sensiblerie. C'est pas l'émotion et la sensibilité qui, pour moi, sont juste du matériau merveilleux dont on se sert finalement assez jamais. Mais le drama, il va nous contracter, il va nous tendre, il va nous mettre mal à l'aise avec l'idée de l'abondance et du développement et de l'épanouissement dans les affaires. Il va nous mettre mal à l'aise. Donc ça, faut s'attendre à ces injonctions. Et même, faut les inviter. C'est-à-dire que quand on fait le processus, on applique le processus. Moi, je dis, dans mes trainings, je dis, activez les injonctions. Allez les chercher, ouvrez-vous, appelez votre ego. Alors, ego, mental, drama, vous avez quelque chose à dire? Et quand je suis dans le bonheur qui éprouvé dans toutes mes cellules, je prends ces injonctions et je les mets à l'intérieur de moi et je les dissous. Ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très naturel dans les 36 heures, parce que j'ai un événement tous les ans qui s'appelle les 36 heures. J'ai des invités et dernièrement, j'avais Tony Parker. Et en fait, Tony Parker, on parlait du stress, on parlait de la pression. Et il me dit, moi, quand j'arrive sur le terrain et que je sens la pression, surtout, je m'en sépare pas. Et j'accueille cette pression et je la mets à l'intérieur de moi parce que à l'intérieur de moi, il y a l'entraînement. C'est génial. C'est exactement comme s'il parlait du processus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a le plaisir. Donc, j'intègre physiquement la pression, j'intègre physiquement les injonctions du mental et de l'ego, j'intègre physiquement les embarras du drama, parce que mon corps, il est plein de bonheur à ce moment-là, il est plein de joie, plein d'enthousiasme, et donc, du coup, ça disparaît. Il y a une phrase du cours en miracle que je trouve absolument magnifique, qui dit « Les injonctions sont des illusions qui disparaissent quand elles sont vues comme telles, comme elles sont reconnues comme telles. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où je reconnais ces injonctions comme des illusions qui me sont proposées, ça disparaît. Ok, j'entends, ok, je suis d'accord, mais c'est une illusion. Et ça disparaît aussitôt. Et on peut avoir, dans la pratique du processus, plusieurs fois où en fait on va être comme ça, un peu embarrassé par nos injonctions. Mais justement, il faut les accepter, il faut les prendre, il faut les accueillir. Et en fait, elles disparaissent et petit à petit, on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Eh bien, ça nous ouvre des champs d'opportunités qui n'existaient pas avant, parce qu'avant, on était bloqué. Donc ça, c'est pour les injonctions. Ensuite, il y a des étapes. Okay, on veut, on prend toujours l'idée faire évoluer sa société et s'épanouir professionnellement. Ces étapes, ça s'appelle les rétroactions. Alors, ces rétroactions, elles sont super intéressantes parce que ce sont des moments où, effectivement, je travaille mon processus et là, ça bloque. Okay, je ne comprends pas, mais ça bloque. Il y a des rétroactions extrêmement douloureuses parfois pour les gens qui cherchent à gagner plus d'argent. La première rétroaction, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est comme un choix qu'on se donne. Soit je suis toujours accroché à la matière de l'argent et donc du coup, c'est cette matière de l'argent que j'attends pour devenir riche. Soit en fait, je m'en fous, c'est pas grave, je peux gagner et perdre de l'argent, c'est pas important. Et là, du coup, cette rétroaction, elle nous sert de formation. Quand je dis « c'est pas important l'argent, c'est important la richesse en moi, c'est-à-dire l'énergie. Parce que si je considère que c'est pas grave que ça parte, ça veut dire que je mettrai pas de pression pour que ça revienne. Donc ce qui va partir va revenir x10. C'est ça être riche énergétiquement. Être riche matériellement, c'est d'avoir ça et de le mettre dans un coffre pour que justement ça disparaisse pas. Donc c'est une richesse matérielle qui sert à rien parce que de toute façon elle nous stresse. Et en fait, on n'en fera rien. Tandis que cette richesse intérieure, donc qu'on apprend avec ce type de rétroaction qui arrive souvent. Donc moi, quand je vois que ça arrive à des gens dans les groupes de training, je leur dis « Ok, très bien. Ok, comment tu décides, qui tu décides d'être face à ça ? Celui qui a peur ou celui qui a la foi ?» C'est pour ça qu'en fait, c'est psychologique, émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Parce qu'on développe la foi dans l'énergie nouvelle qu'on est en train de créer à l'intérieur de nous. Et cette énergie, en fait, elle va toujours à un moment donné nous ramener cet argent ou nous ramener 10 fois plus. Mais il faut à un moment donné lâcher avec la matière pour pouvoir créer dans la matière. Parce que si tu lâches pas avec la matière, ça veut dire que tu en es toujours dépendant. Mais tu lâches avec la matière et là, tu crées dans la matière où tu n'es pas dépendant, où ta maison, c'est juste, où ta maison, ta voiture, ton niveau de vie, les relations, c'est juste un indice sur ton niveau de fréquence. C'est tout. Mais en fait, aujourd'hui, je peux tout perdre, honnêtement, je m'en fous, puisque je sais que de toute façon, j'ai la capacité intérieure de tout reconstruire, donc c'est pas grave. Je me dis, je peux être pauvre demain, mais je sais que si je suis tout nu dans la rue, j'ai plus rien, une heure après, au moins, j'aurai un caleçon, et puis une demi-heure après, j'aurai un pantalon, puis après, je sais que j'aurai un t-shirt, puis après, je sais que je commencerai à faire des relations avec les gens, et puis après, je serai que je pourrai trouver un boulot, même si c'est plongeur, je m'en fous, s'il faut vider les poubelles, je m'en fous, c'est très bien, tout ça est honorable quand on n'a pas d'autre chose à faire. Et donc voilà, je me dis, c'est parfait, je sais que c'est ça être riche intérieurement. Ça s'appelle la conscience de richesse. Il vaut mieux avoir la conscience de richesse que 1 million sur son compte en banque. Parce que 1 million, c'est exceptionnel, la conscience de richesse, c'est des millions potentiels, donc c'est autre chose. Donc ça, c'est les rétroactions. Et les rétroactions, moi j'adore ça, hein, franchement. Quand j'en vis, parce que tout le monde en vit, je me dis, ah, je suis à un palier. Ça veut dire que j'ai suffisamment évolué pour arriver à un moment où je dois trouver des solutions pour me former à moi-même, hein, sur d'autres potentiels, sur d'autres capacités pour augmenter ce niveau-là. Donc, je suis en train de monter un étage et je suis super content. Ce n'est pas tout à fait des moments où on est très heureux, mais ce sont des moments qui sont absolument géniaux. Et puis après, on peut travailler avec les toxiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais genre 30 secondes là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille pour obtenir. Ça, c'est une toxique. Donc, j'applique la matérialisation, le processus. Et puis après, je regarde vite sur mon compte en banque pour voir si ça a changé. Non, enfin, ça ne marche pas. Quand je disais tout à l'heure au début de l'entretien qu'en fait on matérialise tous, imagine que tu es avec ton copain ou ta copine et en fait que cette personne se tourne vers toi et dit « Tiens, ça te dirait d'aller à Caracas ? Allez, on part en vacances à Caracas. Ce serait génial. » Ah ouais, ce serait super, allez, on part 5 jours à Caracas. Donc le soir, vous discutez de Caracas, vous vous mettez dans l'énergie des vacances, tu vas te coucher. Le lendemain matin, quand tu te lèves, t'es pas étonné de ne pas être encore à Caracas, tu vois. Si c'est le cas, si tu te lèves d'un seul coup en disant « Mais putain, mais pourquoi on n'est pas encore à Caracas ?» C'est qu'il y a un problème. Si cette personne qui t'accompagne, elle se lève d'un coup, elle se dit « Putain, mais merde, pourquoi on n'est pas encore à Caracas ?» Tu vas t'inquiéter pour elle. Eh bien, ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu envisages un voyage à Caracas ou si tu envisages un niveau de vie meilleur, enfin, je veux dire, il va falloir que tu passes par des actions, des gestes, etc. L'idée, c'est de garder cette énergie de voyage à Caracas qui fait que tu iras. Mais si tu gardes cette énergie d'expanser dans ta vie professionnelle, c'est comme ça que tu iras. Là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est construire avec une toxique. Et en fait, les gens s'en rendent souvent vite compte, sauf dans l'amour. C'est-à-dire que je vois que les gens, ils travaillent le processus et ils disent « Bah oui, mais je rencontre toujours personne. » Et ben voilà, c'est parce que tu es en train de travailler avec la toxique. Je travaille le processus de matérialisation pour rencontrer quelqu'un. Non, travaille le processus de matérialisation pour être la personne la plus extraordinaire qui soit et rayonner l'amour que tu es. Et forcément, cette fréquence-là va te mettre sur le chemin de quelqu'un qui va peut-être même pas t'y attendre. Et n'attends pas, et tu vas voir, ça va se faire. Et souvent, les gens qui lâchent... Moi, j'ai une cliente qui a fait 1 an et demi de programme. Et en fait, elle était tout le temps là-dedans. Et j'arrêtais pas de lui dire, lâche ce truc. Et en fait, elle l'a lâché. 2 mois après, elle a rencontré l'amour de sa vie avec qui elle fait le tour du monde. Aujourd'hui, ils sont au Québec, là, en ce moment. Ils vivent plein de choses. À partir du moment où ça s'est lâché, la toxique est lâchée, tout arrive. En plus... Elle avait l'historique de tout son travail qui a fait que maintenant, elle est bien plus que prête pour cette aventure.
Merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai apprécié que tu parles de cette relation à l'argent et qu'aujourd'hui, tu peux être nu dans la rue avec pas d'argent sur ton compte, mais avoir cette richesse personnelle. Et personnellement, dans ma vie en ce moment, je fais beaucoup de dépenses, j'investis dans beaucoup de projets. Et j'ai cette partie de mon système nerveux qui fait un peu genre oh, « oh, oh, alerte ». Et à la fois, parce que je travaille beaucoup sur moi, je fais beaucoup de méditation, de travail énergétique. Au final, moi, je ne me tape pas encore dessus, mais je sens que j'ai incarné cette énergie. Et ben j'ai ça au fond de moi qui me dit « mais en fait, même si tu perds tout, là, tu sais que ça va revenir, tu sais qu'il y a cette... confiance qui est en train de se construire et l'argent va revenir, vraiment, t'inquiète pas. » Et c'est ça qui m'aide à avancer, en fait. Sinon, je pense que je le ferais pas et j'agirais complètement par peur et je fermerais tout.
Anouk, tu surfes. Parce que tu peux pas t'engager dans la mer, sur la mer, avec ton surf et avec une petite voix qui dit « Ouh là là, on va tomber. » Tu vois, tu sais que c'est dans ton apprentissage du surf, tu sais que c'est exactement de ça dont il a fallu se séparer. Parce que ça égale, je monte pas sur ma planche, j'ai pas l'équilibre, j'ai peur de tomber, même voire je me jette pour éviter la chute. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tellement inscrit dans le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait rien avec ça. L'ego, ou cette petite voix qu'on entend et qui nous dit toutes ces espèces de délires, il est important à un moment donné de l'écouter, juste pour faire le constat que ce genre de délire ne peut pas et ne pourra absolument jamais nous emmener vers le bonheur. Jamais. Ça peut pas nous emmener vers l'abondance financière. Ça peut pas nous emmener vers l'amour. Pour aimer et pour partager quelque chose de merveilleux avec quelqu'un, il faut être dans une pleine acceptation de cette situation, de soi, de l'autre, pour ce partage-là. Si on est dans une appréhension que l'autre nous quittera parce que tout le monde nous a toujours quittés, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jeter de l'acide chlorhydrique sur notre relation. Comme ça, là, en disant « non, tout ça va nous faire du bien ». Non, ça va nous bouffer, ça va nous brûler, et à un moment donné, bah, ce sera tellement désagréable que ça va nous séparer. Donc l'apprentissage, c'est d'abord de reconnaître ça. Ce système intérieur qui nous parle ne peut pas nous emmener vers le bonheur. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on en fasse parler un autre. Et c'est ce qui fait que bah, quand tu montes sur ta planche, quand tu vois une vague et que tu commences à glisser dessus et que tu montes sur la planche pour surfer la vague, eh bien tu n'es pas dans le pia-pia-pia de ton mental. Tu es dans le moment présent, tu es en contact avec la nature et voilà, et tu es dans ton corps et c'est ça l'expérience. Sinon, tu ne la fais jamais.
C'est vrai. Et le fait que tu rapproches ça au surf, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je suis bonne surfeuse parce que j'utilise le principe de matérialisation pour bien surfer.
Exactement.
C'est-à-dire que quand je me mets à l'eau, si les conditions sont un peu grosses et que je sens que j'ai un peu peur, je me dis non Anouk, là, focus, tu peux le faire. Il y a quelque chose d'autre en fait qui prend le dessus et qui me permet, quand la vague arrive et qu'elle est grosse, de ne pas faire « Ah !» et d'arrêter. Et ça m'est arrivé dans le passé, bien sûr, mais quand j'utilise ce principe de matérialisation, je suis on et souvent je m'impressionne moi-même et je me dis waouh, je suis capable de ça en fait.
Oui, et puis c'est parce que tu l'as fait et refait et refait et refait, bah, que ton système nerveux autonome n'a plus besoin de t'attraper avec le ah, tu vois, n'a plus besoin de t'attraper pour t'empêcher de faire l'expérience. C'est ça, c'est un parfait exemple.
Alors, j'ai une autre question, c'est par rapport au syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, qui ont envie de monter leur entreprise, qui ont envie de proposer leur offre, mais qui se font bloquer par ce syndrome de l'imposteur. Voilà, elles n'ont pas l'impression d'être légitimes pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce que c'est au final, le syndrome de l'imposteur, et comment est-ce qu'on peut le dépasser ?
Il y a une phrase magnifique qui est dans les quatre filles du docteur Marsh. C'est quelqu'un qui dit à une des filles qui est auteur et qui lui dit « Vous n'écrirez jamais de plus beau roman que celui de votre vie. » Donc, cette phrase signifie quelque chose de très simple pour moi. C'est que, quelle que soit votre volonté de créer une entreprise ou peu importe en fait, vous ne pourrez jamais vendre, fabriquer quelque chose qui n'est pas totalement cohérent avec vous. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas vendre de la viande si on est vegan. Voilà. Et on ne peut pas vendre du vegan si on ne l'est pas. À un moment donné, ça doit nous correspondre. Dans tout ce qui est le travail de l'accompagnement, moi je dis, contentez-vous de partager les outils que vous connaissez parce que vous les avez éprouvés. Pour moi, c'est très important. C'est très important parce que même si on est en chemin pour ça, même si on n'a pas encore trouvé le nirvana dans notre vie sur un sujet précis, on connaît le processus qu'on applique tous les jours et on voit l'évolution qu'on a. Donc ça veut dire qu'on est en capacité de le transmettre. Et quand on est là-dedans, en fait, on n'a plus de problème de légitimité, on n'a pas de problème d'imposteur, parce qu'en fait, on sait qu'on ne l'est pas parce qu'on le vit nous-mêmes. Moi, je pense que sur toutes les choses de la relation, tout ça, en fait, on a l'expérience de notre âge. Moi, j'ai juste un problème avec les affaires et notamment développement d'entreprise et argent. Je le dis, et ça ne fait pas plaisir aux coachs, je le dis à tous les coachés qui m'entendent, si vous êtes en train de faire un programme sur développement financier, demandez la feuille d'impôt de votre coach. Parce que si lui n'a pas développé financièrement, en fait, c'est impossible pour lui de savoir comment développer financièrement. Et si vous êtes dans un coaching développement d'affaires, demandez les bilans de la société de votre coach. Parce que c'est pareil, en fait, c'est juste couillon, mais en fait, dans l'argent, dans le développement financier, dans le développement d'affaires, on est confronté à des barrières ou à des paliers qui sont vraiment spécifiques. Et en fait, la confrontation va demander des compréhensions particulières. Si on n'a jamais été confronté, ben on n'a jamais ces compréhensions et donc on est incapable de coacher quelqu'un parce que nous-mêmes, on n'a pas vécu le truc. On peut savoir théoriquement que ça existe, mais ce n'est pas dans la théorie, dans la stratégie que ça se passe, c'est dans les entrailles. Et là, il faut qu'on ait un petit peu d'expérience. Sinon, voilà, mettez-vous à travailler sur des choses qui sont cohérentes avec vous-même, que vous-même vous vivez. Ça, c'est la première chose. Après, l'illégitimité, je trouve que c'est un sujet absolument génial. Moi, je félicite tous les gens qui se disent « je me demande si je suis légitime ». Pour moi, bravo. C'est le premier indice qui prouve que les gens le sont. Parce que ceux qui ne sont pas légitimes ne se posent pas du tout cette question. Ils n'en ont rien à cirer. Se poser la question de savoir si on est légitime, c'est déjà avoir un système de valeurs à l'intérieur de soi qui dit que, ben, en fait, il faudrait un certain niveau pour se permettre de faire ça. Donc, se poser la question de savoir « est-ce que j'ai ce niveau-là », c'est la première étape qui va ouvrir les portes de bah, « je vais lire, je vais me renseigner, je vais faire moi-même des ateliers, je vais acheter une formation de trucs de marketing aux États-Unis qui est juste un truc énorme et je suis super content ». Enfin voilà, on évolue tout le temps parce que ce besoin de légitimité, c'est ça qui va être le moteur de notre évolution permanente. Moi, quand les gens ils débarquent comme ça, ils disent « ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », et qu'en fait, ils ne me parlent pas de légitimité, et que je vois bien qu'en fait, ils ne le sont pas du tout, j'ai peur. Et il y a des clients, et notamment une femme, il y a 2 ans, j'ai arrêté de travailler avec elle, parce qu'en fait, elle était dans une volonté profonde, à la fois de niquer le système, genre de prendre un pseudonyme pour ne pas payer des impôts et tout machin, et qu'après, elle était dans un processus de « je fais quelque chose, et si je vais en fumer le plus grand nombre de gens », donc j'ai fait une séance avec elle, puis après j'ai dit « bah non, en fait, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et en fait, justement, la conversation qui m'a alerté, c'est « moi, de toute façon, je m'en fous de la légitimité, je fais ça et puis je sais que ça passera ». Oh là là, on s'arrête là, direct, on s'arrête. Non, non, c'est bien. Moi, j'ai un problème de légitimité, je me demande tous les matins, je me demande « est-ce que je suis la bonne personne pour transmettre ces informations-là ?» Et honnêtement, il m'est arrivé une fois, d'ailleurs, j'étais invité sur un, sur un, un sommet en ligne sur la parentalité, sur la famille. Donc, c'était prévu déjà depuis 2 mois. On avait notre... Enfin, j'étais invité vedette. Et c'est terrible parce que dans ces 2 mois-là, toute ma famille s'est écroulée. C'est-à-dire, toutes mes relations, divorce, machin, enfin, d'un seul coup, tout s'est écroulé. Donc, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire ça. C'est pas OK pour moi de donner des informations à des gens alors que moi-même, ma famille est en train de s'écrouler. Moi, j'ai vu des sommets de la réussite où je voyais intervenir des gens et je savais que ces coachs-là, c'est des gens qui dormaient dans leur voiture et qui étaient là en disant « Alors, la réussite, c'est comme si… » Wow. Je me dis « Non, c'est pas possible. » Donc, effectivement, l'organisatrice m'a d'abord hurlé dessus en m'insultant, en me disant « Mais tu peux pas faire ça à 2 jours du sommet, etc. » J'ai dit « Non, mais si tu veux, je fais une vidéo, j'explique, tu vois. Ça me dérange pas. » Mais je ne peux pas accepter ça. Pour moi, je pourrais pas me regarder dans la glace. Et puis, qu'est-ce que les gens vont faire avec les informations? Vivre ce que moi, je suis en train de vivre avec. Donc, c'est des bombes à retardement. Visiblement, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc, je travaille. Et puis, si un jour tu veux me réinviter, tu me réinviteras. Je te dirai si je suis prêt ou pas. Et donc, après, elle m'a quand même recontacté 2 heures après pour me dire, écoute, franchement, je trouve ça incroyable que tu fasses ça et je te remercie. C'est une grande leçon pour nous. Et elle me dit, en fait, est-ce que tu me permets de dire, de raconter cette conversation? Je dis, oui, bien sûr, pas de problème. Et j'ai entendu ça et j'étais à la fois heureux parce que je sais que je fais ce choix-là et à la fois triste parce que je me disais, putain, c'est quand même pour... je savais pas ce que ça allait donner en termes de branding, mais bon, voilà, quoi, je me dis, c'est comme ça. Donc la légitimité, ouais, pourquoi pas, ça, c'est pas un problème, en fait.
Ouais, j'apprécie vraiment ton partage et personnellement, même moi, quand je choisis mes formations ou quand je choisis les gens par lesquels j'ai envie d'apprendre, la première chose que je regarde, c'est est-ce que cette personne m'inspire ? Est-ce que cette personne vit une vie que je trouve rayonnante ? Et après, en fonction de ça, en fait, peu importe ce que la personne fait, je me dis « Ok, j'ai envie d'apprendre de toi ». Parce que pour moi, je trouve que ça part de ça.
Oui, puis je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ce qu'on ressent. On le sait, c'est toujours le meilleur, c'est le meilleur vecteur, quoi. Il est beaucoup plus intéressant que notre ego ou notre mental qui lit des pages de vente et qui se laisse convaincre par des arguments marketing. Qui t'enseigne? Qui t'enseigne?
Ouais, complètement. Alors, j'ai encore 2 petites questions pour toi, Laurent. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est important de s'autoriser à vivre ses rêves? Pourquoi est-ce que c'est important pour le monde de faire ça?
Excellente question. C'est une excellente question et peut-être que la réponse va un peu te troubler, ou enfin, en tout cas, j'espère que ça va être entendu. Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas le faire pour ça. Il ne faut pas le faire pour vivre ses rêves, en fait. Il ne faut pas le faire pour changer le monde parce que je pense que c'est encore un moyen de se fuir soi-même. En fait, je travaille avec un outil très simple, en fait, qui s'appelle les fenêtres de Johari. Il y a 4 fenêtres de la connaissance de soi. La première fenêtre, c'est l'intimité, ce que je sais de moi que les autres ne savent pas. Ok, c'est mon intimité. C'est tout ce que je connais sur moi que les autres, voilà, ne savent pas parce que je suis dans ma salle de bain, dans mes toilettes, et c'est ma vie, quoi. Ensuite, la deuxième fenêtre, c'est ce que les autres savent de moi que moi, je ne sais pas. C'est l'image de moi. Qu'est-ce que les gens pensent quand j'arrive dans une pièce? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ce que les autres savent que moi, je ne sais pas. La troisième, c'est la communication. C'est la vie sociale. C'est-à-dire ce que les autres savent de moi, que je sais aussi. Donc, c'est les informations que j'ai sur moi, que je donne. C'est ma légende. Tout le monde va voir. Les gens prennent ça. Donc, ce que je sais de moi, que les autres savent aussi. Et le processus de matérialisation, c'est la 4e fenêtre. Ce que je ne sais pas de moi, que les autres ne savent pas non plus. Et pour moi, la première sur l'intimité et la 4e sont les trésors les plus précieux qu'on a. Et cette 4e fenêtre, plus je vais la développer et plus je vais être en conscience de la première. Si je suis en conscience des 2, je suis en conscience de la 2e, c'est-à-dire l'image de moi, puisqu'en fait, à partir du développement de mon potentiel, je sais que je dégage une autre énergie, donc je la maîtrise, donc c'est la 2e. Et après, j'ai plus envie de raconter des conneries sur moi. C'est-à-dire que qui je suis suffit. J'ai pas besoin de convaincre, j'ai pas besoin d'avoir des arguments. Les gens qui sont autour de moi sont des gens qui viennent me voir parce qu'en fait, on a envie d'avoir une relation, on a envie d'harmonie, de partage. J'ai pas envie que les gens me disent « Ah, t'es Laurent Marchand, je m'en fous de ça, ça m'intéresse pas du tout. » Et donc ça, c'est le développement du potentiel. Ce développement du potentiel humain, il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en plus avec les réseaux sociaux, on a accès à des tas de gens. Alors évidemment, il y a beaucoup d'enfumage, mais on a accès à des tas de gens par l'information qui arrivent à faire des trucs incroyables. Il y a des mecs qui mobilisent toutes leurs ressources, leur argent pour acheter des bateaux et aller nettoyer les mers. Franchement, c'est pas des gens qui se baignent dans ces endroits-là, mais ils ont une sorte de mission intérieure qui est plus forte que tout, plus forte que leur famille, plus forte que tout, et ils sont sur des bateaux toute l'année à essayer de nettoyer ce que les gens y jettent en vacances en été à Ibiza. Voilà quoi. Je me dis, putain, mais c'est génial en fait. C'est incroyable de découvrir le potentiel de chaque personne dans l'humanité. C'est hallucinant. Il y a des mecs qui passent des années et des années et des années pour trouver des algorithmes qui vont faire la prochaine application sur laquelle tout le monde va s'échanger des conneries. Je trouve incroyable. Et moi, je me dis, j'ai un potentiel. Chacun a un potentiel extraordinaire. Allons faire l'expérience de ça. Allons faire l'expérience de ça. On passe quand même une grosse partie de notre vie à faire l'expérience de la peur, de l'angoisse, de l'appréhension. Bon, ok, c'est cool. Moi, j'ai fait l'expérience de la pauvreté, de la jalousie, de la colère. Ok, super, c'est chouette. Bon, maintenant, autre chose. Ok, ça me convient pas au quotidien. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme expérience de moi qui est juste ouf. Et j'ai pas besoin de faire des trucs glorieux. C'est-à-dire juste aimer mes enfants, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai un client qui est venu me voir et qui me dit, je me déteste parce que en fait, j'aime ma femme, mais j'arrive pas à lui dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est d'une douceur incroyable. Et il me dit, là, l'autre fois, je l'avais dans mes bras, et en fait, elle me dit, je t'aime, et je vois que je me tends, et elle sent que je me tends. Et en fait, elle croit que je me tends parce que j'ose pas lui dire que je l'aime parce que je l'aime pas. Mais en fait, je l'aime. Mais c'est impossible pour moi de le dire. Tu vois, système nerveux autonome qui prend le contrôle. C'est horrible, on a des choses merveilleuses à vivre. Dire je t'aime à quelqu'un, alors que ça fait des années qu'on n'arrive pas à le faire, sortir dehors alors que ça fait 7 ans qu'on est enfermé, juste cesser d'avoir peur de rencontrer les gens, d'avoir une vie sociale, de s'amuser, de rire, de danser, d'être totalement libéré de ces peurs du regard des autres. Mais quel bonheur, il est là le trésor. Gagner 10 milliards de dollars, c'est génial. Mais il y a aussi plein d'autres choses à faire qui sont de l'ordre du quotidien. Enfin, je veux dire, moi, mon fils, quand il vient me prendre dans ses bras, c'est un ado. Tout le monde dit, ouais, les ados sont chiants. Non, non, non. On peut aussi avoir une relation avec ces ados qui est juste merveilleuse. Mais il faut d'abord arrêter de les coller à des schémas idiots. Donc juste s'ouvrir à l'intérieur de soi à l'idée que cette relation peut être géniale. Et quand il vient me voir et qu'il se colle contre moi alors que je suis en train de faire un truc et presque même parfois, ça me fait chier, mais il est là, il dit, mon papou chéri, bah en fait, voilà, je prends 2 minutes pour être avec lui parce que c'est délicieux, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est ça, les victoires, elles sont là. Les victoires, elles sont pas dans le fait de faire des choses glorieuses, de réaliser ses rêves. Moi, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Évidemment, je pourrais partir dans des grands délires. Mais aujourd'hui, par exemple, mon projet cette année, c'est un projet physique, c'est un projet sur la matière de mon corps. J'ai envie de faire ça, je me suis libéré de tellement de maladies récurrentes. Je me dis, bah voilà, c'est un domaine dans lequel t'es pas encore allé à fond, t'as fait 60%. Maintenant, va tester un truc. Et je vois bien que je suis en face de mes limites, en face de mes injonctions. Et je vois bien qu'il va falloir que je bosse. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Après le reste, c'est juste des choses, voilà. Sourire, moi, c'est la première chose que je fais quand je me lève le matin. C'est-à-dire que je suis dans mon lit, mon réveil sonne, j'ouvre les yeux et je souris. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, même si c'est le chaos, le bordel, je souris toujours parce que c'est la première injection chimique que je me fais à partir de mon hippocampe et mon hypothalamus. C'est ma première injection chimique que je me fais, c'est je souris. Voilà. Je souris, mais vraiment, j'ai un grand sourire jusqu'à ce que cette chimie arrive et soit dans mon corps. C'est pas juste un geste, c'est pas juste une intention. Il faut que ce soit un geste et une intention qui déclenche une chimie qui se libère à l'intérieur de mon corps et dès que c'est libéré, je me lève. Voilà.
Je viens de le faire ce matin et j'ai adoré. J'ai trouvé ça juste génial. Je me suis dit, en fait, maintenant, tu commences tous les matins comme ça. Dans ton livre, également, juste pour rebondir sur tout ce que tu as dit, tu parles d'une révolution silencieuse. J'ai vraiment aimé ce terme. Je trouve que ça fait appel à toute cette partie plus subtile, en fait, de notre intériorité et de cette transformation personnelle qui apporte finalement énormément autour de nous également. Donc,
ce que je trouve magnifique, c'est que Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont passées par mon programme. Et tu vois, dernièrement, j'ai une de mes clientes qui me disait, tiens, voilà, je suis dans un problème comme ça, manana. On a fait appel à un cabinet d'avocats qui s'appelle comme ça. Et je lui réponds, tu sais qu'en fait, la responsable de ce cabinet d'avocats, c'est quelqu'un qui a fait le programme aussi. Et en fait, il y a plein de trucs. On me racontait là ce week-end que c'est une cliente qui disait, en fait, chez moi, mon fils se moque toujours un peu de moi par rapport à tout est possible parce que j'ai le carnet, le machin, le truc. Et en fait, on est allé au camping cet été et il a vu passer une personne qui avait une gourde, tout est possible. Il a couru vers moi et dit, oh, regarde, il y a quelqu'un qui fait le programme aussi. Et du coup, on s'est rencontrés et tout. Franchement, le plus on sera nombreux et le plus il y aura une volonté de partage harmonieux. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'installer la graine de la pure potentialité, qui est une notion que j'ai appris chez Deepak Chopra. La pure potentialité est un truc extraordinaire. C'est-à-dire, la pure potentialité, c'est le brin d'herbe ne fait pas d'effort pour pousser, le rayon du soleil ne fait pas d'effort pour te réchauffer, en fait. Et l'humain n'a pas d'effort à faire pour rayonner. Et donc, c'est ça, la pure potentialité. Et moi, je trouve ce concept absolument merveilleux. Et vraiment, l'idée de travailler dans ce training qui dure 12 mois, dans lequel on est accompagné, il y a des référents qui sont avec nous, on travaille toujours ensemble, il n'y a personne qui est sur le bord du trottoir. Vraiment, l'idée, c'est pas que les gens suivent un programme et disent « Hourra, le remarchant !» quoi. Si les gens s'en vont derrière et puis sont heureux, moi, je suis super heureux. Une fois, je suis allé interviewer une cliente pour un documentaire, parce qu'en fait, elle a développé ses affaires au point d'acheter une maison, de retaper une grange, etc. Et en fait, je suis allé la voir et on parle de ça. Il y avait des caméras et on filmait comme ça, tout ça. Et puis après, on se pose sur des chaises tous les deux. Et elle me dit, tu sais, je l'ai pas osé te le dire, mais c'est pas ma plus belle matérialisation, ces granges-là, tu vois. Je dis, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, tu sais, je suis malade depuis 15 ans. Et dans mes dernières analyses, il n'y a plus rien, en fait. Et puis, il faut que je te dise aussi, cet homme-là que tu vois dans la maison, avant de démarrer le programme, c'était une procédure de divorce. Et aujourd'hui, c'est la plus belle histoire de ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé par des moments horribles, notamment qui étaient liés à la maladie. Et en fait, elle dit, en fait, je lui ai dû juste demander, laisse-moi un peu de temps. Il m'a laissé le temps et aujourd'hui, c'est, tu vois, il me dit, je sais pas comment dire. Je sais pas ce qu'on peut filmer si je te dis ça. On peut pas filmer des analyses, des trucs qui n'existent pas. Donc, on parle de la maison, mais voilà, aujourd'hui, cette maladie, je l'ai plus, quoi. Et aujourd'hui, mon couple, il est heureux. Donc en fait, c'est voilà, on n'est pas là pour bâtir des châteaux, on est là pour juste être heureux en fait, profondément heureux. Parce que quand on est libéré du système de cerveau traumatique, mais c'est juste, voilà, c'est ce que je viens de faire, c'est soulageant quoi, tu vois, c'est soulageant, c'est la paix quoi. Et l'expérience de la paix est l'expérience la plus extraordinaire qui soit. Moi, je m'en fous que les gens s'achètent pas des voitures ou s'achètent pas, je m'en fous. Je veux qu'ils ressentent la paix, quoi. Une fois qu'ils ont ressenti la paix, allez dans votre vie, c'est bon, vous êtes libérés, les gars.
Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est par rapport à des mots que tu as partagés dans ton livre également, que je recommande évidemment à tout le monde, qui est fantastique. Et ces mots, c'est « je ne suis plus poreux ». Je pense qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui peuvent souffrir de cette porosité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu étais lorsque tu étais pour eux? À quoi ressemblait ta vie et qu'est-ce que tu as fait pour ne plus l'être?
En fait, je pense que tout le monde est pour eux parce que c'est un modèle d'éducation. C'est-à-dire qu'on est fragilisé enfant par l'état de nos parents ou de nos éducateurs principaux. Donc, on est comme des éponges comme ça qui prenons un peu l'état des gens à l'extérieur de nous. Et puis... c'est pareil avec nos copains de classe, c'est pareil avec nos instituteurs, c'est pareil avec tous. En fait, on est dans une espèce de vigilance permanente qui fait que, en fait, tous les états à l'extérieur de nous vont prendre la main sur notre état intérieur. Au point qu'à un moment donné, on va complètement s'oublier. Donc, ça fait des adultes qui grandissent et qui sont tétanisés par le regard de l'autre, ce que va penser le voisin, ce que vont penser leurs parents, machin. Il y a des gens qui arrivent, qui sont adultes. Moi, j'ai une cliente qui me dit qu'en fait, elle n'arrive pas à réussir parce qu'elle est tétanisée par le regard de son père, parce qu'en fait, son père a été extrêmement dur avec elle. Et en fait, elle me dit, dans le coaching, elle arrive à la conclusion de me dire, en fait, il a tellement été dur avec moi que je me rends compte que si je réussis, il va pouvoir s'en vanter, tu vois. Il va justifier le truc en disant, de toute façon, du coup, j'ai bien fait d'être dur avec elle. Et donc, je me dis, putain, très, très intéressant. Et puis, on continue de parler et tout. Et je dis, bon, alors, tu vas faire un truc, c'est que tu vas tu vas tenir l'énergie quand tu seras en face de ton père. Elle me dit, bah non, c'est pas possible. Il est décédé depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, cette porosité, elle est tellement importante que même après le décès de quelqu'un, cette personne n'arrive pas à s'en détacher. Donc, on a tous été un peu traumatisés par rapport à cette porosité, donc plus ou moins en fonction de ce qu'on a vécu. Mais en fait, plus on travaille sur notre intériorité et notamment la paix, c'est-à-dire vraiment l'expérience d'être dans la, dans un espace où on, voilà, on est vraiment, on se sent vraiment tranquille. En fait, c'est une reconnexion au pilier, au socle que nous sommes nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, cette paix, elle ne peut pas être expérimentée sans la vraie notion du corps. Tous les gens qui font du boulot sur la méditation et en fait qui sont totalement perchés, qui me parlent de paix, c'est pas possible. La paix, c'est éprouvé. Donc, c'est le corps. Et pour ça, il faut être ici. Parce que c'est magnifique, justement, d'être en paix ici. C'est ce que je dis la méditation, c'est absolument génial. Mais arriver à méditer le 24 décembre à la FNAC, ça, c'est le job, quoi, tu vois. Parce que méditer sur un coussin tout seul dans ta maison, alors tu vois, au bord de la mer, c'est cool, mais non, faut vraiment, pour moi, c'est la paix dans ce monde-là, c'est justement la reconnaissance que, ou en tout cas, la compréhension par l'expérience, parce que c'est pas une compréhension théorique. C'est très, très, même très, très difficile à comprendre théoriquement, mais quand on fait l'expérience de la paix, on fait la paix avec tout, avec soi, avec l'extérieur, et donc il n'y a plus de porosité. Alors parfois, effectivement, on a toujours des gens autour de nous qui râlent, qui ne sont pas contents, parce qu'ils ne sont pas dans un travail intérieur, parce qu'ils sont, voilà, ils sont embarqués dans une énergie ambiante. Mais on peut avoir du recul, en fait, on peut leur laisser ça. On n'est pas obligé d'embarquer avec... Moi, j'avais mon premier coach, qui est un mec absolument extraordinaire, il m'avait sorti cette phrase que j'avais adorée. Bon, il m'en a sorti des milliers que j'adorais, mais celle-là était très belle, elle me dit. Il me dit, en fait, tu me parles du regard des autres et de la porosité à l'humeur des autres, mais imagine que tu prends le métro le matin à 7h, ok ? En fait, tu vas rentrer dans un métro bondé où tout le monde a un parfum différent. Il y a des gens qui sont sortis la veille et qui ont toujours l'odeur de la soirée, de la transpiration, d'autres qui seront parfumés avec du Chanel, d'autres qui sont parfumés avec d'autres parfums. Voilà, quand tu sors du métro, tu n'emportes pas tous les parfums avec toi. Le parfum, c'est l'humeur, ok ? Donc, tu n'emportes que ton humeur à toi. Tu peux être un temps influencé par l'humeur des autres, mais apprends à sortir de ça pour ne pas t'embarquer avec l'humeur des autres. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort comme image, et c'est ça vraiment que j'ai essayé de travailler. Juste être dans l'acceptation de mon propre état intérieur et me dire, mais même chez les gens qui sont très très enthousiastes, hein, que je ne suis pas obligé d'être contaminé, quoi. Et en fait, la contamination émotionnelle, qui est quand même un principe hein, dans le développement personnel, c'est comme installé comme quelque chose qui est immuable, alors qu'en fait, pour moi, c'est un détail. C'est vraiment, pour moi, c'est du travail inutile de travailler comme ça sur des contaminations émotionnelles. Mais il y a des gens qui sont très forts là-dedans, qui nous expliquent qu'on fait des bouquins et tout, mais pour moi, je me dis, mais en fait, c'est très, très facile de s'en séparer, alors que ça représente une montagne. Mais... quand on connecte la paix à l'intérieur de nous, quand on essaye de s'en séparer, oui, c'est une montagne. Et ça veut dire qu'en fait, on est toujours dans un travail égo-mental-drama de rigidité et de contrôle. Mais quand on connecte la paix, en fait, et qu'on sait ce que c'est... En fait, la paix, c'est quand même le Graal. On veut pas d'argent. On veut la paix que nous procurera l'argent. On veut pas l'amour. On veut la paix que nous procurera l'amour. On veut pas des environnements merveilleux. On veut la paix que nous procurera l'environnement merveilleux. Donc au final, on veut la paix. Donc ça, c'est la plus grande recherche. Quand on travaille à connecter la paix en face de soi, on retire le plus gros enjeu de notre quête de vie. C'est-à-dire trouver la paix dans une relation, trouver la paix dans l'argent, puisqu'en fait, on l'a. Donc tout devient finalement juste une expérience. Tiens, je vais faire l'expérience de l'argent comme ça, pour savoir ce que c'est. Je vais faire l'expérience, et non pas pour avoir la paix, parce que la paix, je l'ai. Je vais faire l'expérience de l'amour comme ça. Juste pour savoir ce que c'est. Parce que la paix, derrière l'amour, je l'ai déjà. Et tout devient différent. C'est une autre perspective de vie. Et cette porosité, elle n'existe plus. Alors moi, dernièrement, je suis allé boire un coup avec un copain. Je le regardais. Waouh ! J'aimerais pas être dans ses intestins, quoi. J'aimerais pas être dans son cœur. J'aimerais pas être dans son corps. C'est incroyable. Mais c'est pas pour autant que j'étais bienveillant et je l'écoutais se plaindre de tout et de tout le monde et du monde et des gens et des femmes. Et en fait, c'était super. Et en fait, on a discuté pendant 1h30. Il m'a absolument pas demandé comment j'allais. Il a pas demandé à ma compagne ce qu'elle faisait dans la vie. Il s'est intéressé qu'à son trauma. Mais ouais, ok, super. Bah voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, ça veut dire que d'une façon tout à fait froide, je sais que je vais moins le voir parce que voilà, parce qu'il n'est pas intéressé par la relation. Donc il y a beaucoup de monde. J'ai appris cette phrase de Marie qui travaille avec moi, qui m'a dit il y a quelques années, c'est incroyable, il y a des milliards de gens sur Terre et parfois on tient absolument à des relations qui sont horribles, quoi. Pourquoi faire? Faisons l'expérience des gens merveilleux. Faisons l'expérience des états merveilleux. Faisons l'expérience des situations merveilleuses. C'est ça le job.
Merci beaucoup, Laurent, pour tous tes partages. Vraiment, je me sens hyper reconnaissante et remplie de cette riche conversation. Comment est-ce que les gens peuvent continuer à travailler avec toi? Donc, il y a déjà le livre, Tout est possible. Il y a aussi les 36 heures que tu as mentionnées. C'est quoi les dates de tes 36 heures?
Alors, les 36 heures, c'est 28 et 29 octobre. C'est un événement. Donc voilà, si les gens écoutent ça après le 28 et 29 octobre 2023, je ne sais même pas si on en fera un derrière. Mais l'idée des 36 heures, c'est 36 heures de conférence. Moi, je fais 29 heures quasiment de conférence, dont 9 heures de conférence non-stop la nuit. Et en fait, c'est vraiment c'est une sorte d'accélérateur de processus du développement personnel et du processus de matérialisation. C'est vraiment, on rentre là. Alors, vraiment, alors pour moi j'anime 36 heures d'affilée, donc je sais que c'est aussi dans ma vie à chaque fois un challenge, à chaque fois une découverte sur moi, mes potentiels, mes ressources, etc. Parce que chaque année j'ai le doute, là je me prépare pour ça, mais je sais même pas moi-même si je vais tenir 36 heures. Donc c'est 36 heures à fond. Donc voilà, les gens ils peuvent dormir dans la salle, il y a pas de problème, on condamne pas les gens qui dorment. C'est juste qu'on fait cette expérience pendant 36 heures et si on a sommeil, on a sommeil. Sauf moi, j'ai pas le droit. Donc, tous les gens qui participent, mes équipes, moi, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a ma vie avant et ma vie après les 36 heures. C'est une expérience hallucinante entre soi et soi. Pas dans un environnement, entre soi et soi. Parce qu'on résout énormément de choses sur les questions qu'on se pose sur soi-même. C'est le connais-toi toi-même en 36 heures et c'est à fond. Après, vraiment, là où je mets beaucoup d'énergie, c'est le centre d'entraînement, donc qui est le programme Tout est possible. Et aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie à accompagner des professionnels qui veulent devenir des coachs avec le processus de matérialisation, parce que quand on coach sur le processus de matérialisation, c'est quand même une mécanique très particulière qui n'est pas du tout une mécanique du coaching traditionnel, ni de la psychologie, etc. Donc du coup, tous les gens qui sont intéressés par le développement de cette activité-là, en fait, je les forme. Donc, ça s'appelle les coachs TEP, les coachs Tout est possible. Donc, ça, c'est beaucoup d'énergie. Et je me rends compte aussi que il y a beaucoup de gens qui cherchent à développer. Et là, on a vu, il y a une espèce d'hécatombe de thérapeutes qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Pourtant, des gens qui ont besoin d'eux, il y en a plein. Et donc, du coup, je monte Tout est possible, donc TEP Business, à la rentrée 2024. C'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, mais j'avais pas, il me faut énormément d'énergie pour monter ça et je l'avais pas parce que j'étais occupé sur d'autres choses. C'était la formation Scan, Connexion, enfin, j'avais d'autres trucs. Maintenant, il y a TEP, il y a TEP Pro pour être coach TEP et il y a TEP Business à rentrée janvier 2024. Et après, bon, il y a toujours chaque année des chanceux. Moi, je les appelle les chanceux parce que je sais ce qu'on vit ensemble, c'est les titans. Donc l'année dernière, on est parti à 20 pendant 9 mois, on a fait des expériences de bootcamp de ouf. C'est des gens avec qui on est connecté 24/24 et là, on est en train de faire on va dire le nouveau casting pour cette année. Il y aura probablement pas 20 personnes, mais voilà, c'est un programme encore à part entière, c'est vraiment un programme très haut niveau. Voilà, donc voilà, en gros c'est ça, c'est tout est possible pro pour ceux qui veulent enseigner le coaching, devenir coach du processus de matérialisation. Et puis voilà, TEP Business rentrée 2024.
Merci beaucoup et je mettrai les liens de tout ce dont tu as parlé dans la fenêtre de l'épisode. Merci encore une fois Laurent pour tous tes partages.
Excuse-moi, je te coupe. En fait,
dis-moi.
Je voudrais juste ajouter un truc, c'est-à-dire que...
Oui.
TEP Pro, TEP Business, tout ça, c'est à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est cher, je peux pas le faire. » Le livre est à 19,50 €. Il y a tout dedans, ok? Donc, lisez-le, faites les exercices et faites-vous confiance sur votre capacité à transformer les choses. Et après, si vous voulez nous rejoindre dans le centre d'entraînement, mais vous êtes les bienvenus, mais ne vous mettez pas en danger alors qu'en fait, les informations, elles sont accessibles à 20 balles, ok? Voilà.
Et ce que j'ai énormément apprécié dans ton livre également, c'est qu'il y a une partie théorique, mais il y a toujours une partie expérimentale. Et tu dis bien aux gens, faites cette partie expérimentale, que ça soit pas juste un « je lis quelque chose » et puis en fait, je repars dans ma vie avec mon architecture traumatique, mais de vraiment, vraiment prendre le temps d'incarner tout ce qui est partagé. Tu as cité Un cours en miracle. J'avais envie de finir avec une phrase qui vient aussi de Un cours en miracle. Alors, c'est en anglais, mais c'est « Power is given to the people who serve ». Le pouvoir est donné aux personnes qui servent. Et je pense que ce pouvoir t'est pleinement donné parce que tu sers énormément de monde. Et merci encore pour cette interview. J'ai été honorée de pouvoir t'interviewer.
Merci beaucoup, Anouk. Merci aussi de donner cette possibilité d'expression. Je pense que c'est riche. Moi, tu me dis ça, mais je ne peux m'empêcher d'ajouter en moi, je ne fais que ce que je peux, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je le fais avec cœur et je sais que ça résonne et ça me permet de rencontrer voilà, des gens qui passent le flambeau comme toi. Et c'est un vrai bonheur, en fait. Ma vie est un bonheur parce que voilà, régulièrement, bah, y a des Anouk sur mon chemin. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'espère que l'épisode t'a plu et que tu y as trouvé des conseils inspirants et motivants pour mieux naviguer sur l'océan de ta vie. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram et à me dire ce que tu as le plus appris lors de cette conversation. Quels ont été tes aha moments? De mon côté, depuis l'interview, mon énergie is glowing et je baigne pleinement dans la croyance que tout est possible et que je suis la créatrice de ma vie, ce qui est tellement fantastique et empouvoirant. Et puis si tu as apprécié le podcast, alors une façon simple de me soutenir, c'est de te rendre sur l'application Apple Podcast ou Spotify et de me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit si l'application le permet. N'oublie pas de t'abonner pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.